3h30 en temps universel, il est 5h30 ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
Arthur Ponchelet.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Afrique Matin qui commence à la une des sanctions et des questions en RDC. Après sa visite à Goma vendredi, Joseph Kabila est désormais visé par des poursuites judiciaires. Son parti, le PPRD, a été suspendu par les autorités pour qui l'ex-président est complaisant face au M23. Emmanuel Macron dans l'océan Indien, le président français atterrit à Mayotte. Ce matin, il va parler reconstruction après le cyclone Chido. Une visite qui fait grincer des aux Comores, on est à Moroni dans un instant. Dans ce journal aussi, l'emploi des jeunes Africains au cœur des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, les femmes qui sortent de la norme, trop souvent victimes d'accusations de sorcellerie au Ghana, selon Amnesty International. Et puis de la musique, on écoute le dernier album d'Alpha Blondie à la fin de ce journal. Après l'annonce retentissante de son retour au pays, puis sa visite à Goma vendredi dernier, Joseph Kabila est désormais dans le viseur des autorités congolaises. L'ancien président fait face à des poursuites judiciaires et son parti, le PPRD, est suspendu par le ministère de l'Intérieur. Joseph Kabila est accusé, je cite, d'activisme avéré et d'une attitude ambiguë face au M23 soutenu par le Rwanda. Il y a ces poursuites judiciaires, il y a aussi la relation entre l'ex-chef de l'État et son successeur, Félix Tshisekedi. Paul Lorgerie, rien ne va plus entre les deux hommes, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Le 24 janvier 2019, lors de l'investiture de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila affichait un large sourire en remettant à son successeur l'écharpe présidentielle qu'il l'avait habillée pendant près de 18 ans. Les deux hommes s'étaient même tombés dans les bras avant de se saluer d'une franche poignée de main. Tout cela, c'était avant que Félix Tshisekedi tourne le dos à celui que l'on surnomme le Rice. En 2021, la majorité parlementaire dont ce dernier bénéficie rejoint en partie la cause du nouveau président. Tombé dans l'opposition, Joseph Kabila se réfugie alors derrière les de sa ferme proche de Lubumbashi, ne donnant quasiment plus de signes de vie. Avec une faible représentation à l'Assemblée et devenu critique du pouvoir, il donne ordre aux députés de sa formation politique de ne pas se représenter aux élections de décembre 2023. Enfermé dans son mutisme, les critiques à son égard se multiplient. Kinshasa le soupçonne de soutenir la rébellion du M23. Des accusations qui se sont concrétisées avec la suspension du PPRD et des poursuites judiciaires engagées contre lui. En cause, son probable passage à Goma, sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité, développe un communiqué du ministère congolais de l'Intérieur. Si l'on ignore pour le moment où l'ancien président se trouve, son entourage a assuré qu'il s'exprimerait sous peu.
Paul Lorgerie, ces poursuites judiciaires et cette suspension du PPRD suscitent des réactions ce matin, notamment dans les rangs du parti de l'ancien président. Ce matin, sur notre antenne, Ferdinand Cambéré, son secrétaire permanent adjoint, parle, je cite, d'une mesure arbitraire digne d'un régime totalitaire et fondée sur des rumeurs. Cette décision des autorités congolaises est en tout cas à lire sous le prisme politique. C'est l'analyse de Ndombo Moleka. Il est coordinateur de la dynamique des politiques de RDC.
À ce stade, le gouvernement n'a pas présenté des éléments qui puissent étayer le rapprochement entre Kabila et M23, si ce n'est les déclarations du chef de l'État et de ses différents ministres. Quand on prend l'option, par exemple, de suspendre le parti PPRD parce que le président du PPRD a pris une position, c'est une mesure très forte. Est-ce que le parti est lié à la position de Kabila? Est-ce que quand on prend les biens, on saisit tous ces biens, est-ce que c'est à la suite d'un jugement? Est-ce une décision unilatérale du ministre de la Justice? Ce sont à la fois des leviers politiques difficilement justifiables d'un point de vue juridique quand on voit la procédure qui est mise en place, mais qui vise absolument à neutraliser un adversaire politique. On le sait, Kabila est dans une dynamique de retour, et les retours politiques pour beaucoup de, je dirais, d'affider la famille du président actuel, il faut en finir totalement avec lui, et donc ça peut être une stratégie de neutralisation politique d'un adversaire.
Propos recueillis par Sidi Yansane. C'est une info RFI. Le pouvoir centrafricain dit formellement oui à un dialogue politique avec l'opposition. C'est le ministre conseiller spécial de Faustin Archange Touadéra, Fidèle Gwandjika, qui le dit ce matin sur notre antenne. Mais avec qui et sur quel sujet, pour le savoir, Fidèle Gwandjika sera l'invité de Christophe Boisbouvier. Entretien à écouter à partir de 5h47, temps universel.
RFI.
5h35, en temps universel, 5 jours pour parler reconstruction, intégration régionale et enjeux économiques. Emmanuel Macron est en tournée dans l'océan Indien à partir d'aujourd'hui. Le président français sera à La Réunion et à Madagascar, notamment pour participer au sommet de la commission de l'océan Indien. Mais d'abord, c'est à Mayotte que va atterrir l'avion présidentiel dans 2 heures. Une visite qui fait grincer des dents aux Comores. Et si la France demandait l'intégration de Mayotte à la commission de l'océan Indien? Abdallah Mzembaba, c'est en tout cas la rumeur qui circule à Moroni.
Pour l'ambassadeur Imam Abdillah, ancien officier permanent de liaison auprès de la COI, la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte ne devrait pas être perçue comme une crainte sur les velléités liées à l'île dans l'organisation régionale. Depuis 2018, la France mène une politique indo-pacifique, incluant le sud-ouest de l'océan Indien, où elle dit veiller sur ses intérêts, notamment stratégiques, pour sa sécurité et sa prospérité. Sur la question de Mayotte, la position de Moroni est claire, l'île est comorienne et ne peut intégrer la commission de l'océan Indien en tant qu'entité française, puisqu'elle y est déjà en tant que comorienne. L'ambassadeur Imam Abdillah dénonce une guerre de communication menée par certains élus maoris et de rappeler qu'aucune discussion n'est en cours au sein de la COI sur ce sujet. Une ligne rouge réaffirmée aux Seychelles le 15 avril, le ministre comorien des Affaires étrangères a rejeté toute tentative d'association de Mayotte à la COI au nom du respect de l'intégrité territoriale et du droit international. Abdallah Mzembaba, Moroni, RFI.
Et après Mayotte, Emmanuel Macron sera à La Réunion, puis à Madagascar pour participer au sommet de la commission de l'océan Indien. Avec son homologue malgache, il doit aussi évoquer le dossier brûlant des îles éparses et des restitutions d'ossements datant de la colonisation. L'actualité à Madagascar, c'est aussi cette question, comment mieux protéger les produits artisanaux? Pour le ministère du Commerce, cela passe par une indication géographique, notamment pour le cacao, désormais baptisé Sambirane, pour mieux le reconnaître et le faire valoir à l'international. Reportage de Sarah Teto.
Dans les sous-bois humides de la vallée du Sambirane, au nord de l'île, les cabosses colorées constellent les troncs des cacaoyers. À l'intérieur, des fèves de cacao au profil organoleptique d'exception qui pourraient bien, d'ici quelques années, être protégées par l'appellation « indication géographique ». Philippe Pédelahore, agroéconomiste au CIRAD, apporte son expertise sur le projet.
L'IG impose à définir un cahier des charges très précis que chacun des membres du groupement devra suivre et qui garantit que la qualité historique, la qualité traditionnelle est bien respectée et qui va aussi, grâce à des contrôles et à une traçabilité, garantir que le produit vient bien exclusivement de la région de Sambirane.
Ce label est censé permettre aux clients intermédiaires ou finaux d'être sûrs de la qualité et de l'origine de leur cacao quand ils achèteront une plaquette de chocolat cacao de Sambirane.
Alors ça demande effectivement un travail en plus, puisque vous l'avez compris, il y a un système de contrôle qui est adossé à l'indication géographique. Mais le bénéfice net des producteurs, mais aussi des différents maillons de la filière, des transformateurs, des exportateurs, peut augmenter. Et comme c'est les producteurs eux-mêmes qui définissent le cahier des charges, une plus grande partie du bénéfice leur revient.
Au Cameroun, le prix du poivre de Penja a été multiplié par 4 en une décennie grâce en partie à l'appellation IG. Toutefois, ce label n'a rien de magique. Plusieurs produits, à commencer par le café Ziama Macinta de Guinée-Conakry, n'ont pas réussi à maintenir leur débouché à l'étranger malgré l'obtention de l'appellation. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
On l'a compris, l'enjeu de cette appellation géographique, c'est bien de faire connaître les produits et à terme de renforcer les filières agricoles. C'est aussi d'employer plus de monde et notamment des jeunes. Le chômage des jeunes, une problématique partagée par de nombreux pays du continent et au cœur des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Ce rendez-vous annuel de l'économie s'ouvre aujourd'hui à Washington. Charlotte Cosset, cette année, les institutions de Bretton Woods s'intéressent particulièrement à l'emploi des jeunes.
40% de la population du continent africain a moins de 15 ans. Des jeunes qui vont avoir besoin de débouchés, insiste Ajay Banga, le président de la Banque mondiale.
Au cours de la prochaine décennie, 1,2 milliard de jeunes entreront sur le marché de l'emploi dans les pays en développement. Actuellement, on prévoit que ces pays créeront 420 millions d'emplois. Ce fossé n'est pas seulement une question économique. Je pense qu'il s'agit là d'un risque mondial. Car sans opportunité, les menaces liées à la fragilité, aux migrations illégales et à l'instabilité se renforceront.
La Banque mondiale a par exemple mis en place le laboratoire de l'investissement privé, aujourd'hui composé pour l'essentiel de banques et d'institutions financières. Ce groupe va être élargi.
Nous allons élargir sa composition pour y inclure les secteurs qui, selon nous, sont les plus importants pour la création d'emplois. Il s'agit de l'énergie et de ses infrastructures, de l'agroalimentaire, de la santé, du tourisme et de l'industrie manufacturière. Nous passons des essais à la mise en œuvre. Ce travail est intégré dans l'ensemble de nos activités. Nous le lions directement à notre agenda pour l'emploi. C'est au cœur de notre stratégie.
Ces derniers mois ont été marqués par la baisse de l'aide publique au développement et la coupe brutale de l'USAID, une évolution qui incite d'autant plus les institutions à se tourner vers le secteur privé et la philanthropie.
Charlotte Cosset, les États-Unis s'apprêtent-ils à réduire leur présence en Afrique? D'après une information du New York Times, le département d'État américain veut tout simplement supprimer son bureau pour l'Afrique et le remplacer par un bureau de l'envoyé spécial pour les affaires africaines. Selon le projet, toutes les ambassades et les consulats considérés comme non essentiels en Afrique subsaharienne seront fermés. Les détails dans le journal de Nemo en Peace dans une heure. Quand les accusations de sorcellerie conduisent à l'exil et à la mort, c'est au Ghana que ça se passe. Amnesty International a mené l'enquête pendant 2 ans. L'ONG s'est rendue dans 4 camps de sorcières. C'est comme ça qu'on appelle ces lieux informels du nord du pays. Victor Cariou, Amnesty est catégorique. L'État ghanéen n'a pas suffisamment garanti les droits fondamentaux des personnes accusées de sorcellerie.
Plus de 500 personnes exilées de leur village résignées à vivre dans des camps vétustes. Cette réalité décrite par le rapport, Samadou Saïbou la constate tous les jours. Il travaille pour l'ONG Songtaba qui vient en aide aux victimes d'accusations de sorcellerie marquées à vie.
Some of them had livelihoods before they were accused. Certaines d'entre elles avaient un travail avant d'être accusées. Leur emploi a été perdu et cela les a affectées psychologiquement. Là-bas, vous voyez également des femmes qui n'ont plus de doigts parce qu'on leur a brûlé.
S'il n'existe aucune statistique officielle, le rapport pointe néanmoins 7 décès liés à des lynchages. Principale cible des accusations, les femmes qui sortent de la norme, comme l'explique Michel Eken, chercheuse senior à Amnesty International.
Ce sont souvent des femmes de plus de 50 ans vulnérables dans la communauté, ou des femmes qui réussissent bien dans la vie, qui ont leur propre entreprise. Dès qu'il y a un incident dans la communauté, ce sont les premières à être accusées de sorcellerie.
Autre point, l'incapacité pour les victimes de recourir à la justice ou de pouvoir retourner chez elles en toute sécurité. La preuve, selon la chercheuse, d'une défaillance de l'État ghanéen sur le sujet.
Il n'y a pas de budget dédié aux campagnes de sensibilisation, il n'y a pas d'abri et il n'y a pas de loi criminalisant spécifiquement les accusations de sorcellerie et les abus liés aux accusations.
Une loi dans ce sens devrait être étudiée au Parlement au cours de l'année 2025. Victor Cariou, Accra, RFI.
De la musique pour refermer ce journal et le roi ivoirien du reggae. De retour, Alpha Blondie revient avec son 20e album, 11 titres et une volonté, toujours la même depuis plus de 40 ans, contribuer à l'élévation de l'Afrique. Cet album s'appelle Rise et Carmen Lunsman l'a écouté pour nous.
Alpha Blondie n'a rien perdu de son énergie ni de son engagement. La star internationale de la musique afro-reggae lance depuis 44 ans des appels pour une Afrique plus juste, plus libre, plus grande. Épaulé par des artistes renommés comme Capleton, maître du dancehall jamaïcain, et Koffi Olomide, roi de la rumba congolaise, Alpha Blondie chante son désarroi, mais surtout son espoir pour le continent africain, en anglais, français et dioula. Ayetaga, allez-vous-en avec vos problèmes ou la révolution, c'est la solution, déclare cet éternel optimiste en révolte-toi, Africa. Conscient des maux du monde, sans se poser en donneur de leçons, Alpha Blondie manie les mots avec sagesse, faisant même appel au philosophe grec Socrate dans son titre « Je ne sais rien aux accents électro ». Sans oublier la jeunesse, symbole d'un avenir plus radieux, incarné par son fils. Surnommé le Prince Bleu, celui-ci lance du haut de ses 5 ans l'hymne ensoleillé de la Cannes 2024. Ayoka, bonjour en langue bété.
Rise, le 20e album d'Alpha Blondie vient donc de sortir sous le label Alpha Alliance. Il est 3h44 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Voilà pour le journal. Restez avec nous. Dans les prochaines minutes, l'insécurité alimentaire progresse en Afrique de l'Ouest. C'est le réseau de prévention des crises alimentaires qui le dit. On en parle dans Afrique Économie. Malgré une bonne campagne de commercialisation, la noix ivoirienne peut-elle être menacée par les droits de douane américains? Réponse à Abidjan dans la chronique des matières premières. Et puis on est à Mayotte dans 10 minutes. On parle notamment de l'isolement des personnes âgées et de rénovation après le cyclone Chido. Mais d'abord, c'est un carrefour symbolique entre la France et l'Afrique. Marseille, ville aux mille facettes, accueille aussi de nombreuses diasporas du continent. Et à l'heure où les relations entre la France et certains pays africains traversent une période de turbulence, ces diasporas construisent toujours des ponts entre ici et là-bas. Ce sont justement ces initiatives qui étaient au cœur du forum Ancrage à Marseille la semaine dernière. RFI Reportage, Christina Okello.
Elles vivent en France, mais gardent les yeux tournés vers l'Afrique. Au forum Ancrage à Marseille, des membres de la diaspora racontent comment elles agissent des deux côtés.
Moi, je m'appelle Nadia Tiswadiki et je dirige une structure qui s'appelle l'Agence nationale pour la promotion des investissements aux Comores.
Née en France, Nadia Tiswadiki a choisi de repartir aux Comores. Une décision qu'elle décrit comme un retour à l'essentiel.
C'est la terre-mère. Et quand on arrive là-bas, on se dit que tout ce qu'on fait peut avoir beaucoup plus d'impact que ce qu'on ferait ici.
Mais elle reste attachée à Marseille, point d'ancrage historique de sa communauté.
La diaspora comorienne, ils sont venus en France, ils venaient via la marine marchande. Quand on arrive de l'Afrique, c'est le premier endroit où on accoste.
À Marseille, d'autres choisissent d'agir ici, en France.
Je suis Moussa Camara, le fondateur et président des Déterminés.
Moussa Camara accompagne des jeunes entrepreneurs issus des quartiers et défend l'idée d'un engagement ancré dans une double culture.
Moi, je suis français d'origine malienne. Mes parents sont au Mali, j'ai de la famille là-bas. Je suis attaché à mon pays, la France, mais je suis aussi attaché à mon pays d'origine. Et ce n'est pas possible de ne pas créer des ponts. Il y a toujours quelque chose à construire. C'est ça, ancrage culturel, ancré dans nos richesses, ancré dans notre origine, dans notre double origine. Et c'est ça, le mot ancrage.
Même quand les États rompent le dialogue, les échanges humains, eux, continuent. Malbila Yero est burkinabé, volontaire en mission à Marseille.
Pour moi, c'est Malbila Yero. Je suis volontaire de solidarité internationale.
Dans un contexte de désaccord entre son pays et la France, il croit encore aux rencontres et au vivre ensemble.
Le forum Ancrage permet à voir autrement le monde et de diversifier les relations, de se reposer les questions et construire une dynamique plus, comment dirais-je, réciproque. Autrement, c'est cette ouverture aussi à d'autres, à d'horizons, sans distinction aucune. Ça, c'est un élément important aussi qui permet de renforcer les liens.
Des liens entre peuples et non plus seulement entre États. À Marseille, carrefour symbolique, ces diasporas ne parlent pas de rupture, mais d'avenir partagé. Christina Okello, Marseille, RFI.
Reportage à réécouter sur notre site rfi.fr.
RFI, toute l'actualité, Arthur Ponchelet.
Dans l'actualité internationale de ce lundi 21 avril, c'est à minuit tout à l'heure qu'a pris fin la trêve annoncée par la Russie dans sa guerre en Ukraine à l'occasion de la fête de Pâques. Trêve d'un peu plus de 24 heures jamais véritablement respectée. Kiev dit avoir compté plus de 2000 violations du cessez-le-feu. Emmanuel Macron débute à Mayotte une tournée de 5 jours dans l'océan Indien. Déplacement qui l'amènera ensuite à la Réunion sur l'île Maurice et à Madagascar où il prendra part au sommet de la commission de l'océan Indien. Ce sera le dossier du 7h temps universel avec notre envoyé spécial. À une semaine du vote au Canada, l'espoir pour les conservateurs de revenir au pouvoir s'amenuise. Les libéraux du Premier ministre Marc Carney sont donnés vainqueurs par tous les sondages, ce dernier étant considéré comme plus crédible pour affronter le président des États-Unis Donald Trump. Et puis l'armée israélienne publie les conclusions de l'enquête sur la fusillade mortelle contre 15 secouristes du Croissant-Rouge à Gaza le mois dernier. Les soldats n'ont pas tiré de manière aveugle, dit le rapport, mais il reconnaît des fautes. Le Croissant Rouge, de son côté, affirme que les soldats israéliens avaient tiré avec l'intention de tuer et demande une enquête indépendante. 3h49 en temps universel. Des récoltes en baisse et plus de 30 millions de personnes face à l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. C'est le réseau de prévention des crises alimentaires de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel qui le dit. Ses membres se sont réunis il y a quelques jours pour décortiquer la dernière campagne agro-pastorale. C'est l'Afrique Éco du jour, signé Charlotte Cosset.
Malgré une bonne campagne de saison des pluies, les récoltes n'ont pas été au rendez-vous. En moyenne, selon les statistiques, la production céréalière a baissé de 5% par habitant et l'insécurité alimentaire progresse. Différents facteurs expliquent cela, met en avant Abdoulaye Mohamadou, le secrétaire exécutif du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le CILS.
Nous avons des facteurs aggravants, comme l'insécurité civile qui fait que beaucoup de populations sont déplacées et donc ont perdu leur capital productif. Nous avons également la situation des marchés, une forte inflation qui fait qu'il y a une tendance haussière depuis quelques années. Les prix ne redescendent pas. Traditionnellement, on est dans la période des récoltes, des prix baissent, mais là, on a une tendance sur la région extrêmement inquiétante liée à la dépréciation aussi de certaines monnaies dans certaines régions.
Pour lui, il existe également une dimension politique évidente. Les accords de Malabo prévoyaient un engagement financier de 10% des ressources des États dans l'agriculture.
Malabo n'a jamais été vraiment atteint. Il y a de nouveaux facteurs aggravants. Aujourd'hui, avec le terrorisme et l'insécurité, les arbitrages budgétaires se font malheureusement en défaveur du secteur agricole au profit de tout ce qui est défense et sécurité.
Nana Touré est la directrice du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE. Elle abonde en ce sens.
Cette crise est récurrente. On ne peut plus la considérer comme conjoncturelle ou une question d'urgence. Donc la question de planification est au cœur des décisions. Et qui dit planification dit priorité, dit aussi volonté politique de non seulement reconnaître l'existence de cette récurrence et aussi la nécessité d'investir les budgets et les mécanismes nécessaires qu'il faut pour répondre à cette récurrence-là.
Cette dynamique doit être régionale et ceci malgré la création de l'AES et de la sortie de ces trois pays de la CEDEAO.
Je crois que l'espace communautaire existe encore, il y a des corridors qui existent encore entre les communautés et des corridors de commerce au niveau des différents espaces. Donc je ne pense pas que la dimension politique interfère à ce niveau-là et que les systèmes sont en place et sont fonctionnels encore.
Les coupes drastiques du USAID et les baisses générales de l'aide publique au développement auront sans doute un impact sur la prochaine campagne. Les évaluations sont en cours.
Charlotte Cosset pour Afrique Économie. Il y a une campagne qui ne connaît en tout cas pas la crise, c'est celle de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Les acteurs de cette filière très importante dans le pays tirent un bilan plutôt positif alors que l'on est à mi-parcours de la campagne de commercialisation. Sur un peu plus d'un million de tonnes de noix produites cette année, il en reste 250 000 à écouler sur les marchés. C'est la chronique des matières premières avec Binta Diagne.
Premier signe positif, dès le début de la campagne en janvier, le prix Borchamps de la noix brute de cajou a été rehaussé. Il est passé de 275 à 425 francs CFA le kilo, de quoi valoriser les paysans qui cette année ont vu leur production augmenter de 20%. Selon les projections du ministère de l'Agriculture, la production devrait s'établir à un peu plus d'un million de tonnes de noix brute. 900 000 tonnes ont déjà été achetées auprès des producteurs. Par ailleurs, du 18 janvier au 15 mars, le marché a été ouvert en priorité aux transformateurs locaux. Cela nous a permis d'avoir accès à une noix de bonne qualité et d'éviter la concurrence avec les exportateurs internationaux, commente un entrepreneur. En tout, 36 usines en activité ont pu être approvisionnées. Elles ont pu absorber près de 600 000 tonnes de noix brutes. Seule ombre au tableau, les nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis, révisés à la hausse et que Washington a temporairement suspendu. Les opérateurs du Vietnam, taxés à près de 47%, sont inquiets. Cela a ralenti les choses, affirme Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre ivoirien de l'Agriculture. En clair, il y a moins d'engouement autour des ventes car une grosse partie de la production est achetée par le Vietnam qui exporte ensuite l'amande de cajou vers les États-Unis. Face à la retenue des acheteurs, locaux comme internationaux, les producteurs bradent leurs noix brutes. La situation est bloquée, peste un producteur qui regrette le non-respect des prises officielles ces deux dernières semaines. Des solutions vont bientôt être prises, assure le ministre ivoirien de l'Agriculture, qui demande aux paysans d'être patients. De son côté, pour faire respecter le prix plancher, le conseil Coton-Anacarde organise des ventes groupées dans les zones où les acheteurs se font rares. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
La chronique des matières premières à réécouter quand vous le souhaitez sur l'application RFI Pure Radio. Bientôt 4 heures en temps universel avant de retrouver Marion Kazanov pour le journal Un détour par l'océan Indien. On fait le point sur l'actualité à Mayotte et à La Réunion avec nos confrères de La Première. Le journal des Outre-mer vous est présenté ce matin par Alex Léveillé.
Madame, monsieur, bonjour. À Mayotte, la médiathèque de Bondrélé a accueilli ce week-end un nouveau café des parents. Le thème, l'éducation à la sexualité chez les enfants, porté par l'association des parents d'élèves de la commune. L'initiative a permis aux participants de mieux comprendre leur rôle éducatif. Un parent d'élève, Angaya Maroufou.
Face aux enjeux sur l'éducation à la sexualité dans les écoles, il est important que nous, parents, sachions exactement ce que les enfants apprennent dans les écoles, afin qu'on puisse aussi les suivre à la maison et puis les accompagner aussi dans leur développement, parce qu'il est très compliqué de savoir qu'un enfant apprenne des choses à l'école qu'on ne sache pas exactement, et puis ça peut permettre aux enfants en fait de se perdre dans leur développement personnel. Ce que j'attends vraiment ici, c'est de comprendre notre rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement à travers cette éducation sexuelle? Quel est notre rôle dans cet enseignement?
Angaya Maroufou, parent d'élève, était au micro de d'Ismaël Mohamed Ali. Et toujours à Mayotte, la Fédération mahoraise des associations des personnes âgées et des retraités a organisé la 5e édition du salon Coco Bakoko à Chiconi. L'objectif est de divertir les personnes âgées en les aidant à sortir de l'isolement, mais aussi les renseigner sur leurs droits et démarches pour bénéficier d'un meilleur accompagnement. Mariam Kassim, directrice de la FMAPAR.
C'est un rendez-vous annuel qu'on a avec nos personnes âgées, nos aînés. Bah c'est leur moment à eux. Et ce salon dure 2 jours. Donc hier, c'était l'ouverture du salon. On a échangé sur la vie affective des personnes âgées. Et aujourd'hui, c'est le moment un petit peu festif où ils reviennent rencontrer, poser des questions aux exposants qui sont présents aujourd'hui par rapport à leur situation, leurs difficultés. Et ça leur permet d'avoir des réponses à leurs problèmes.
Parmi les stands dans le salon Coco Bakoko, celui de la rénovation, car après le passage du cyclone Chido, ils sont nombreux à se retrouver avec des maisons endommagées. Le conseiller en rénovation énergétique chez Solia, Fayadi Ousseni Oussoulé Maïna.
Nous sommes là pour expliquer aux personnes âgées par rapport surtout à leurs habitations qu'ils peuvent améliorer leur logement et bénéficier des aides financières. Ça peut être aménager leur cuisine, leur faire des travaux qui seront plus adaptés par rapport à leur situation, mais également réduire la chaleur dans le logement et leurs factures. Ici, on a eu pas mal, bon nombre de personnes qui sont venues nous dire que leur logement n'est pas vraiment adapté par rapport à leur situation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là voudraient qu'on aille un peu plus loin, aller chez eux et voir ce qui peut être fait en termes de travaux.
Et tous deux étaient au micro de Nadia Ali de Mayotte, La Première. Et de la nostalgie dans le quartier de Château-Morange à Saint-Denis de La Réunion. Ce week-end a eu lieu la première journée tant longtemps, l'occasion de mettre en avant le savoir-faire des aînés, la transmission intergénérationnelle. Réaction des visiteurs conquis au micro de Jonathan Évrard de Réunion La Première.
Les employés découvrent pas mal de petites choses, c'est sympa. Toute la journée, on voit toujours les mêmes choses, les téléphones, la télé et compagnie. Donc savoir un petit peu ce qui se passait avant, c'est intéressant aussi, pour savoir où aller un jour.
Quand même, le tout numérique, on essaye d'en sortir. Et même les jeux longtemps, même pour que ce soit pour eux, mais même pour nous, c'est des choses qu'on a perdues. Et c'est un bon moyen de pouvoir les faire revivre ici.
Même le tressage en feuilles coco, c'est chouette. Et puis ça nous apprend des trucs qu'on n'a jamais vus.
C'est bien pour les enfants de découvrir un peu les traditions, on va dire.
Il ne faut pas perdre la tradition. On l'explique que voilà, nous, quand on était petits, on était comme ça, au fur et à mesure, mais pour pas qu'ils perdent. Ils adorent la coutume des grands-parents.
Hein. Ça nous fait penser notre ancien, comme on est en retraite, l'âge est d'avancer, mais là, c'est super, ça nous fait du bien plaisir. Là.
Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Bonne journée à vous aussi, Alex Léveillé. Et c'est ainsi que se referme cette demi-heure d'actualité africaine. Préparée et réalisée ce matin avec Diego Tenorio et Xavier Besson. Merci à eux, merci à vous, surtout de votre fidélité. L'actu africaine revient dans 30 minutes. Ce sera avec Nemo en piste. D'ici là, restez bien avec nous. Dans une minute, un nouveau journal. Très bon réveil à l'écoute de RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Namoury Dosso.
À l'issue de la convention de son parti, Tidiane Thiam a été désigné candidat du PDCI RDA pour la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Quelles sont ses chances? Pourra-t-il rassembler l'opposition derrière sa candidature?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrandt.
30 ans après les guerres des années 90, la question des disparus hante encore les Balkans. À Đakova, dans l'ouest du Kosovo, la maison de Ferdonier est devenue un lieu de mémoire. Depuis le jour où son mari et ses quatre fils ont été enlevés, il y a 26 ans, cette femme vit dans un musée.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU, sur RFI.